Vous écoutez
RMC. RMC, 9h-10h.
Votre vie numérique.
François Sorel.
Raphaël Grabli.
Il est 9h08, le retour de ce week-end des experts, après le jardin, après la maison, après la forme, la santé, la vie numérique, qui est Raphaël Grabli. Bonjour Raphaël.
Salut François.
Raphaël Grabli, notre expert vie numérique, journaliste à BFM Tech, que vous retrouvez à mes côtés chaque samedi, 9h-10h. On a entendu ton PC, t'as reçu un mail,
oui,
Raphaël.
Exactement, ça, c'est une bonne nouvelle. Je viens d'éteindre le son.
Non, voilà, en tout cas, ça prouve que, vous voyez, Raphaël, même en télétravail, reçoit des mails, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, Raphaël, au menu de cette heure dédiée à la vie numérique, dans un instant, Alain a une question, parce qu'il aimerait bien offrir un téléphone à sa concubine, à un smartphone avec un bon appareil photo, mais il a un budget limité, donc il aimerait avoir tes conseils. On va le retrouver dans un instant.
Et il a beaucoup de chance, parce qu'il tombe très bien, Alain.
Ah, il y a des nouveautés.
Le timing est excellent. Je expliquerai pourquoi.
On va en parler dans un instant. On va évoquer aussi les démarches administratives à effectuer, qu'on peut faire sur le web. Ça, c'est génial. Hein, carte grise, permis de conduire, etc. Mais il faut prendre des précautions, hein, Raph.
Oui, mais tu sais, j'avais fait un conseil comme ça sur l'Estal visa pour partir aux États-Unis. Bon, alors c'est plus tellement d'actualité, évidemment. Mais c'est vrai que pour beaucoup de démarches administratives, on peut se connecter, tout est faisable en ligne, mais on a encore des pubs sur Google qui arrivent pour des services payants qui permettent de faire la même chose simplement en payant. Donc c'est pas très intéressant. Et puis pour les données personnelles, c'est pas terrible.
D'accord. Et puis on évoquera le fléau de cette société. Alors on le sait qu'Internet apporte des choses magnifiques, mais c'est vrai qu'il y a une addiction aujourd'hui à Internet, au réseau, au smartphone, notamment chez les plus jeunes. On l'évoquera tout à l'heure et les conséquences que ça peut avoir, hein, Raphaël.
Oui, exactement, notamment avec les applis, avec TikTok aussi, dont on parle beaucoup. Et on va essayer de savoir si ça concerne aussi que les enfants, si ça concerne pas aussi les parents, parce que évidemment, ça nous concerne un peu tous. Puis c'est vrai qu'en cette période de rentrée, je pense qu'il y a pas mal de parents qui ont laissé leurs enfants un peu tranquilles cet été, et puis il faut reprendre un rythme différent. Donc on va essayer de savoir un peu comment faire pour reprendre un rythme un peu plus scolaire et mieux
et moins
contrôlé,
réseaux sociaux.
Et moins réseaux sociaux, ou en tout cas un usage plus contrôlé.
Arrête de scroller ton smartphone, s'il te plaît, Raphaël. Ça suffit.
Je ne scrolle plus.
Tu ne scrolles plus, ça y est ?
Non, j'essaie de limiter au maximum, c'est vrai. Moi-même, j'essaie de limiter.
Très bien. Et puis, je le disais, toutes vos questions vie numérique à Raphaël, dès maintenant, 32-16, l'appli RMC Direct Studio. Et on attaque avec Alan, qui est là.
Bonjour
Alan.
Voilà, j'ai une question. Je souhaiterais avoir un téléphone plus performant que l'iPhone 11 en qualité photo.
Ah, carrément. Plus performant que l'iPhone 11.
Ah oui, carrément.
D'accord, très bien. Raphaël.
Alors, déjà, en fait, moi j'ai une question à poser à Alan. Plus performant à quel niveau ? Est-ce que vous voulez plus de types de photos différentes ? Parce que l'appareil photo, il y a deux appareils photo sur l'iPhone 11. Il y a ce qu'on appelle un grand angle, c'est-à-dire les appareils photo classiques de smartphone, et il y a l'ultra grand angle qui permet d'avoir des photos un peu presque en fisheye, c'est-à-dire pour des paysages. Est-ce que vous voulez une autre fonction, c'est-à-dire plus du portrait avec un zoom par exemple, ou est-ce que vous voulez faire des photos classiques mais simplement que la photo soit de meilleure qualité ?
Plus classique et meilleure qualité, voilà, au niveau des pixels plutôt.
Alors, dans ce cas-là, alors au niveau des pixels, déjà, vous savez, Alan, le nombre de pixels, franchement, ça n'a absolument aucun impact, à part si vous voulez faire des impressions en très très grand format. Ça, je ne sais pas si c'est le cas.
Mais non, du tout, c'est juste...
Alors, si c'est pour un usage réseaux sociaux, internet, enfin un usage classique, en fait, aujourd'hui d'ailleurs, les fabricants, il y a beaucoup de fabricants qui font du 12 mégapixels, c'est ce qu'il y a sur l'iPhone d'ailleurs, et finalement le résultat est excellent. On peut avoir une photo en 64 mégapixels qui soit horrible, qui soit très très mal faite, et une photo en 12 mégapixels qui soit très belle. Le nombre de mégapixels, ça définit simplement si on peut l'agrandir ou pas, mais sur un écran ça n'a aucun intérêt, mais c'est pas ça qui fait la qualité de la photo. C'est vraiment la nature du capteur photo, c'est les algorithmes, c'est très très important. Et c'est pour ça que moi, en qualité photo, moi, il y a un modèle qui revient tout le temps, surtout si on aime juste la photo classique, mais juste une photo d'excellente qualité. Le meilleur du marché pour moi, c'est le Google Pixel. Qui porte très bien son nom d'ailleurs, qui est juste
qui n'a qu'un pixel d'ailleurs,
qui n'a qu'un pixel, c'est un très gros pixel, mais c'est un magnifique pixel. Non, c'est le Google Pixel qui est donc le smartphone de Google et qui est tout simplement, enfin à mes yeux et aux yeux de pas mal de confrères et de consoeurs, le meilleur smartphone en photo. C'est pas celui qui a le plus de fonctions différentes, parce que notamment chez Apple avec les 11 Pro, chez Samsung, chez Huawei, on a
il y a plusieurs capteurs, etc.
On peut faire aussi. Alors en gros, la grande tendance depuis un an, c'est de faire du zoom. C'est-à-dire du zoom x20, x30, x50, mais c'est pas l'usage de tous les jours. Si on veut juste faire des belles photos, clairement, le Google Pixel, c'est le meilleur du marché. Après,
notamment, notamment dans des environnements sombres, hein, c'est ça aussi la force de ce téléphone. Je sais pas si Alan, votre copine veut faire des photos, je sais pas moi, par exemple à l'intérieur.
Des photos de ma fille, c'est tout.
Oui, et ben alors, non, mais pour le Pixel. C'est franchement, moi, c'est la recommandation que je fais. Si c'est premier critère la photo, c'est le Pixel. Sans
en
hésiter,
plus,
alors,
Raphaël, il y a un nouveau modèle de Pixel qui vient de sortir, le Pixel 4a, qui a un prix vraiment très abordable et qui fait de très belles photos.
Ça coûte pas forcément très cher,
c'est ça qui est
top. Non, pas du tout. Alors, c'est pour ça que je disais à Alan d'ailleurs qu'il avait de la chance au niveau timing, parce qu'il se trouve qu'il y a Google qui sort effectivement, donc c'est le Pixel 4a qui coûte 350 €. Donc franchement, qui est très abordable. Alors du coup, bon, les finitions, c'est assez joli, mais c'est pas exceptionnel. Après, la puissance, elle est correcte. C'est pas un foudre de guerre non plus. Mais par contre, en photo, il a l'appareil photo le meilleur du marché, tout simplement. À 350 €, c'est le meilleur du marché. Même sur le capteur principal, hein, il y a moins d'options, mais sur les photos classiques, pour moi, il est meilleur que des smartphones à 1 200 €. Donc, franchement, vous pouvez y aller. Alors, en plus, je disais que le timing était bon parce qu'il est en précommande, je crois, depuis hier et il sort le 1er octobre.
D'accord.
Sachant que si vous avez un budget plus élevé et que vous voulez un peu la même qualité photo, mais avec plus de puissance, vous attendez quelques semaines et Google va présenter le Pixel 5, qui est son nouveau haut de gamme, qui va coûter, je crois, à mon avis, 600-700 €. Donc, assez cher, mais quand même moins cher que les haut de gamme concurrents, et qui lui aura là, à mon avis, je pense qu'il aura une au moins aussi bonne qualité photo, simplement il sera plus puissant. Donc après, ça dépend de votre budget.
Oui, mais pendant ce temps-là, le bébé va grandir, c'est ça le souci.
Et pendant ce temps-là, le bébé, oui, ça grandit très bien.
Et voilà.
Donc on peut aller sur le 4A. Déjà, c'est livraison le 1er octobre, donc faut voilà, il y a encore 15 jours, 3 semaines. Mais ça, sincèrement, pour votre usage, si c'est juste pour faire des jolies photos classiques, pour moi, il n'y a pas d'hésitation.
D'accord, ok, ça marche.
Voilà, vous aviez un petit peu jeté un œil sur les modèles disponibles ou pas, Alan ? Vous étiez déjà fait votre petite sélection ?
Oui, le Xiaomi Mi 10 et le Samsung S20.
En photo, alors le Mi 10, moi je suis pas fan en photo.
Ouais,
je trouve pas que les photos soient exceptionnelles. Le rapport qualité-prix est excellent par ailleurs parce qu'il est très puissant, il est hyper beau. Enfin, mais en photo, c'est correct, hein, c'est bien, hein, mais c'est pas exceptionnel. Et le S20, c'est très bien en photo, mais il est beaucoup, beaucoup plus cher.
Oui, il est plus cher le S20.
Et oui. Mais il a plus d'options en photo, il peut zoomer, il y a un peu plus d'options, mais. Comme je vous dis, sur la photo classique, c'est-à-dire l'appareil photo grand angle qu'on utilise depuis des années, il est moins bon que le Pixel 4a.
Et voilà, Alan.
Bah, merci beaucoup.
Bah écoutez, voyez, grâce à Raphaël, vous avez économisé un petit peu d'argent en plus, parce que je sais pas quel budget vous aviez pour avoir un beau smartphone.
On avait 500 €.
Et ben voilà.
150 €.
Écoutez, 150 comme ça, vous ferez un petit resto. Même un gros resto avec votre compagne. Hein. Ou alors, vous savez quoi, avec 150 €, vous pouvez nous inviter, Raphaël et moi en plus. Si vous voulez.
Ah bah si vous voulez. Hein.
Ah bah voilà. On arrive, ouais. On vient ce week-end.
Vous êtes dans le Morbihan.
Si vous voulez, je mets le pain au four. Donc si vous voulez manger un bout de pain.
Ah bah 150 €, il vous restera un peu de marge si on mange du pain.
Vous nous faites rêver là. Vous nous offrez un bout de pain là. Ça c'est pas mal. Bon, en tout cas, merci pour votre appel. Et si, tout comme Alan, vous avez une question, smartphone, PC, vous voulez changer d'équipement, vous hésitez parce que vous avez peut-être des besoins spécifiques, un usage particulier, eh bien, n'hésitez pas. On est là pour ça. Raphaël est là pour répondre à vos questions. Le 3216, le standard RMC, l'appli RMC sur votre smartphone Direct Studio. Vous nous laissez votre numéro de téléphone. Il est temps de retrouver les conseils de Raph maintenant.
RMC.
Ceci est notre structure, une sorte de programme de chargement.
Tu veux dire qu'on est dans un programme informatique ?
Le tuto de Raph.
Raphaël Grably, beaucoup de sites nous proposent justement de faciliter toutes ces démarches administratives, hein, lorsqu'on veut par exemple, je sais pas moi, avoir des renseignements ou remplir des formulaires pour une carte grise, un permis de conduire, carte d'identité, etc. Attention, quand on est sur Google, il faut choisir les bons sites.
Oui, comme je disais, François, c'est un conseil que j'avais déjà donné avec l'ESTA. L'ESTA, c'est la demande de visa pour aller aux États-Unis. Alors là, comme je disais, c'est plus vraiment d'actualité. Mais c'est vrai que depuis longtemps, quand on tapait,
là,
pour le moment, bon, je pense que ils sont à peu près tranquilles.
Oui.
Mais quand on tape ESTA sur Google et qu'il faut remplir le formulaire, alors ça coûte $14 sur le portail officiel. Ça fait des années qu'on a des pubs pour des sites votreesta.fr, estadepart.fr, enfin, avec des noms toujours plus créatifs, qui font payer au lieu de $14, souvent 30-40 euros pour faire exactement la même chose. Et c'est vrai que j'ai envie d'étendre un peu ce conseil à toutes les formalités administratives, parce que maintenant, depuis 4-5 ans, de plus en plus, on peut quasiment tout faire en ligne. Et en fait, ça m'y a fait penser tout simplement parce qu'hier, j'avais besoin d'un extrait d'acte de naissance, pour tout vous dire. Et je suis tombé sur des pubs Google, alors que franchement, il n'y a rien de plus simple en ligne que de demander un extrait d'acte de naissance. On peut le faire sur son smartphone en 3 minutes. Et je suis tombé sur des pubs Google, enfin des annonces, pas par Google, mais enfin sur Google, pour des sites extraitdactedenaissance.fr, enfin je ne sais plus exactement les noms, mais pour des sites qui étaient soit payants, soit qui proposaient de remplir et de faire la démarche à notre place, mais sachant qu'en fait, on faisait exactement la même chose. Et donc, je voulais simplement alerter effectivement nos auditeurs, c'est très important, n'allez pas sur ces sites. Quand vous avez une solution gratuite qui existe, allez vers la solution gratuite officielle. Donc, les sites, c'est .gouv.fr, les portails officiels. Et puis surtout, quand vous remplissez ces formulaires ailleurs, sur des sites que vous ne connaissez pas, vous allez forcément donner, surtout pour des documents administratifs, des données personnelles. Un extrait d'acte de naissance, par exemple, on demande le prénom des parents, on demande la date de naissance, on demande l'adresse, mais j'imagine même pas pour une carte grise. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de sites qui proposent des cartes grises alors qu'on peut le faire en ligne. Donc, si vous voulez, alors après la carte grise, il peut y avoir des simplifications, mais disons que ça, c'est de moins en moins justifié. Donc, en tout cas, quand vous voulez faire une démarche administrative, c'est des sites qui existent depuis quelques années, en fait, de l'époque où il fallait aller en bureau et qui permettaient de le faire à votre place. Mais aujourd'hui, quand c'est dématérialisé, faites attention, vous allez bien sur le portail officiel, ça se termine en général sur .gouv.fr, et là, vous avez le formulaire qui sera souvent gratuit, soit le moins cher, évidemment, s'il y a des frais. Et puis, évidemment, vos données personnelles seront protégées.
Et, ne faites pas attention aux drapeaux, aux faux labels, etc.
Logos.
Parce que franchement, il y a des sites qui, mais alors, ne se gênent pas à imiter tous les logos du gouvernement, etc. pour nous faire croire qu'on est sur des sites comme ça.
En général, sur les résultats, on a le petit drapeau français.
Oui,
on a
ça
le petit
rassure,
logo,
etc.
Oui, exactement. Mais d'ailleurs, il y a des sites qui sont certainement vraiment agréés. Je pense notamment aux cartes grises. Je pense qu'il y a des sites
bien
qui sont
sûr,
agréés
bien sûr.
Par le ministère de l'Intérieur.
Mais comme c'est un intermédiaire, forcément,
c'est un intermédiaire. Et la question, c'est est-ce qu'on en a encore besoin, c'est
et
tout.
Oui.
Voilà. Et pour l'extrait d'acte de naissance, là, franchement, ça n'avait strictement aucun intérêt, si ce n'est confier des données personnelles à quelqu'un qu'on connaît pas.
Raphaël, on revient dans un instant pour poursuivre ce week-end des experts et on va parler parfois des excès des ados, des usages des ados sur leur smartphone avec les réseaux sociaux. Et on aura notamment le témoignage d'Elsa et Mélanie qui dénoncent le fait que sur TikTok, certains influenceurs font payer les ados et exigent une rétribution et parfois ça peut dépasser les 100 euros. C'est incroyable. Restez avec nous, on vous explique tout dans un instant avec nos invités et bien sûr vos témoignages, vos questions. 3216, l'appli RMC Direct Studio.
RMC jusqu'à 10h.
Tous accros à nos téléphones portables.
Je pense que ça me suffit pas de regarder juste la télé ou une série. Faut que je fasse un autre truc à côté.
Votre vie numérique.
J'ai toujours besoin d'avoir vite de la nouveauté. De la nouveauté tout le temps. J'ai pas envie de passer à côté de quelque chose, en fait.
Hormis les vidéos et Instagram, Snapchat, etc. Moi, je vois pas d'autres occupations, en fait.
Chaque notification stimule dans notre cerveau ce circuit de la récompense.
François Sorel.
Et ce sont ces notifications qui nous rendent accro. Raphaël Grabli.
Et oui, avec tous ces réseaux sociaux qui aujourd'hui sont très chronophages, sont hypnotiques, on le voit bien. Raphaël, on va en parler donc, surtout que c'est la rentrée. Autant on a pu surfer comme des bêtes sur Internet et sur les réseaux pendant les vacances, mais là il faut quand même passer aux choses sérieuses et travailler un peu, non? Il n'est pas là, Raphaël?
Oui,
il est là. Oui, on t'entend, c'est bon, tu es là. Oui, tu es là.
Ah, super, j'ai eu peur. Parfait. Oui, oui, c'est vrai qu'il y a eu les vacances où on a laissé potentiellement les enfants un peu plus tranquilles, alors ceux qui ont leur propre smartphone, sur les tablettes aussi. Et puis maintenant, bah, faut s'y remettre. Et puis, faut aussi un peu se rendre compte de ce qu'ils font sur leur smartphone, parce que leur smartphone, c'est une bulle, et parfois, on se rend juste pas compte de bah, là où ils passent leur temps. Donc, pour en discuter avec nous et pour un peu essayer de donner quelques conseils quand même, aider les parents qui nous écoutent, on a en studio Justine Atlan. Bonjour Justine.
Bonjour.
Bonjour Justine.
Bonjour.
Vous êtes directrice de l'association e-enfance. Alors cette association, en fait, elle vient en aide aux enfants et adolescents hein, pour leur permettre d'adopter des bonnes conduites sur Internet et également lutter contre les cyberviolences. Alors une question assez basique, mais est-ce que pour vous, la rentrée, c'est une période charnière à ce niveau-là ?
Oui, c'est une période très charnière. D'abord, il y a des rentrées particulières, comme celle de la 6e, par exemple, où subitement, on va avoir toute une classe d'âge qui va être équipée en smartphone, d'un coup.
Alors, je ne sais pas pourquoi, mais à la 6e, voilà, c'est le smartphone qui arrive à la maison.
Exactement, parce qu'en fait, l'enfant va aller tout seul au collège. Parfois, c'est un peu la première fois. Et donc, le parent, en réalité, a du mal à couper le fil. Et donc, il va donner le smartphone à l'ado, bon, qui trouve évidemment son compte. Mais le gros malentendu qui va perdurer dans les relations numériques de la famille s'installe à ce moment-là parce que le parent donne le smartphone pour rester en lien avec son enfant.
Et l'enfant
prend le smartphone pour être en lien avec ses copains. Et du coup, le parent va passer son temps ensuite à dire à son enfant, mais je ne comprends pas, tu ne réponds jamais à mes appels, à mes SMS. En revanche, quand tu es à la maison, tu passes ton temps sur cet appareil. Donc, j'ai l'impression quand même d'être fait un peu avoir, d'avoir offert un objet pour être en lien avec toi, et en fait, tu t'en sers pour être avec les autres.
Et quel conseil pourriez-vous donner à tous les parents qui nous écoutent ? Est-ce qu'il faut équiper son enfant qui rentre en sixième ?
Alors, le passage sixième ne justifie absolument pas, en réalité, d'équiper son enfant en smartphone. Bon, évidemment, il y a des contextes de vie qui sont très différents. On peut, pour des raisons de sécurité ou autres, parce que le chemin va être long, parce qu'il y a un certain nombre de choses, donner un téléphone à son enfant, mais un téléphone, c'est pas un smartphone. Donc, déjà, l'objet en lui-même est très différent.
Donc, un vieux Nokia fait l'affaire.
Un vieux Ericsson Nokia, des marques même obsolètes, si ça marche encore, on s'en peu importe. Mais effectivement, un téléphone, si c'est vraiment pour être en lien, peut suffire largement. Un smartphone, c'est effectivement la boîte de Pandore, comme vous dites, c'est Internet, c'est les applications, c'est les réseaux sociaux. C'est complètement autre chose qu'un téléphone en réalité. C'est une tablette miniature, concrètement. Donc, ça, on n'est pas obligé. Donc, on peut réfléchir entre la 6e et la 4e si c'est opportun ou pas. Et puis ensuite, surtout, il faut se dire que, voilà, qu'encore une fois, l'ado ne va pas du tout s'en servir pour être en lien avec soi va beaucoup s'en servir pour être avec ses copains. Et puis surtout, quand on offre cet objet-là, de bien réfléchir avant, pourquoi je lui offre, à quoi je veux que ça lui serve, comment je vais encadrer ces pratiques-là. Je vais lui dire en lui offrant, je te l'offre pour que tu l'utilises à tel moment, mais en revanche, pas le soir, je te le récupère avant de te coucher, à table, on le met tous de côté, mais évidemment, il faut que les parents le fassent aussi. Enfin voilà, il y a un certain nombre de règles.
Un code du smartphone.
Oui, un peu pour tout ce qu'on apprend à nos enfants dans la vie. En général, on donne quelques trucs, même pour qu'eux se débrouillent, en fait.
Raphaël.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand on donne cet outil, ce smartphone, il y a un discours à mettre en place autour. C'est pas quelque chose qu'il faut donner comme ça, je suppose. Il faut vraiment l'accompagner. Il faut expliquer aussi peut-être pourquoi on va donner un téléphone classique plutôt qu'un smartphone, parce que évidemment, quand l'enfant rentre en sixième, il y en a qui ont un smartphone. Il faut le justifier parce que lui, pour lui, ça peut aussi être un petit peu. Il peut se sentir un peu pénalisé par rapport aux autres.
C'est vrai. C'est pour ça que je dis, il faut évidemment être un peu souple et s'adapter au contexte de vie de son ado, dans la place dans la fratrie, les copains, la distance, enfin voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mais là, vous avez raison, c'est que si on l'offre sans du tout donner de discours avec, en fait, ce que l'ado comprend, c'est qu'on lui offre un jouet. Un jouet, effectivement, on ne dit pas en général comment on doit l'utiliser. C'est quelque chose du plaisir et ludique. Et comme c'est très ludique, un smartphone, si on l'offre et rien d'autre, on lui dit je t'offre un truc sympa avec lequel tu vas t'amuser. En revanche, si on l'offre avec des règles, on comprend que ça sert à quelque chose.
Alors, pour tous les parents qui sont un peu perdus, quelles sont les règles de base lorsqu'on offre le premier smartphone ?
Eh bien, les règles de base, déjà, c'est bien de dire que ce n'est pas un jouet, que c'est un outil de communication, et donc à ce titre-là, et qui est très, très excitant par ailleurs. Donc, à ce titre-là, on va poser des règles de durée d'utilisation. Donc, par exemple, pas à table évidemment, pas le soir avant de se coucher. Je te récupère ce téléphone-là avant.
Donc on récupère le téléphone.
Oui, absolument, on récupère parce que, comme d'ailleurs le petit sujet avant qu'on passe à l'antenne le disait, c'est ultra addictif. On le sait tous, il y a pas que les ados. Et donc c'est même soulageant pour l'ado de savoir que pendant la nuit il n'aura pas la tentation d'aller voir. Et ensuite on le récupère le matin. Donc oui, ça vraiment pas dormir avec, pas se coucher avec, pas à table. Mais les parents faut qu'ils s'y collent un peu. Pas éventuellement pendant les devoirs. voir parce que c'est très distrayant. On n'arrive plus à se concentrer quand on l'a sous la main. Donc ça, c'est vraiment des règles de base. Et puis ensuite, il y a qu'est-ce que je fais dedans. Bah, si t'as moins de 13 ans, idéalement, tu t'inscris pas sur les réseaux sociaux. Ou si tu t'inscris sur un réseau social, on va le faire ensemble. Et il faut que j'aille regarder, si je veux, de temps en temps, ce que tu y fais, ce que tu y dis. Tant que t'es trop jeune pour le faire tout seul. Ça, c'est un peu les règles, je dirais, de base. Pas très compliquées à mettre en place. Et puis ensuite, on suit l'évolution de l'enfant parce qu'évidemment, à 11 ans et à 14 ans, on n'a pas les mêmes usages.
Très bien. C'est un sujet évidemment éminemment complexe, hein, d'autant que parfois ça peut créer des tensions dans la famille aussi. Hein.
Ça crée nécessairement des tensions dans la famille parce que quand vous êtes avec moi mais que vous regardez votre téléphone, vous n'êtes pas vraiment avec moi en fait. Et donc quand on est autour de la famille, les parents, les ados, on a l'impression qu'on est tous avec d'autres gens qui ne sont pas là mais qui ont l'air beaucoup plus intéressants que nous-mêmes. Et ça crée vraiment des difficultés. Et puis dans tout ce qui est effectivement smartphone, c'est un objet dans lequel on va avoir des choses, on va voir des vidéos beaucoup, on va jouer à des jeux énormément. Donc tout ça, ça angoisse un peu les parents qui se disent mais mon Dieu, il est en train de devenir complètement accro et il ne fait plus rien de sérieux.
Alors Raphaël, la conséquence de tout ça, c'est que évidemment, quand on lâche la bride, les ados et les jeunes adultes surfent sur évidemment les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, etc., TikTok, hein, qui est le réseau qui cartonne actuellement, avec toutes les dérives possibles et inimaginables, et notamment cette enquête qui a été révélée par 60 millions de consommateurs concernant TikTok et le racket de certains influenceurs sur TikTok.
Oui, c'est assez dingue. Alors, c'est-à-dire que c'est un usage classique de TikTok, mais c'est vrai que c'est une dérive qui a été dénoncée. Alors, je rappelle, TikTok, c'est une application de vidéos et de danse où il y a plein de petites vidéos assez rigolotes.
C'est très addictif, TikTok. Hein.
C'est extrêmement addictif. D'ailleurs, à part là-dessus, je demanderai à Justine Atlan si TikTok a un statut spécifique. On parle d'Instagram, de Snapchat depuis maintenant plusieurs années, mais là, cette année, c'est vraiment TikTok. Je rappelle quand même 800 millions de personnes sur TikTok, c'est juste un phénomène énorme, absolument énorme, qui appartient à un groupe chinois qui est ByteDance. Et c'est vrai que sur TikTok, et ben quand un utilisateur, une star de TikTok, entre guillemets, ce qu'on appelle un TikToker, fait des vidéos en direct, on peut lui offrir de l'argent. Et ça, c'est assez spécifique à TikTok. Et c'est vrai qu'il y a une enquête de 60 millions de consommateurs qui a révélé que certaines stars de TikTok demandaient de l'argent à des jeunes, à des adolescents, j'ai envie de dire presque à des enfants de 12-13 ans. Et parfois, ça monte à plusieurs centaines d'euros.
En plus, Raphaël, l'histoire dingue dans tout ça, c'est que pour donner de l'argent sur TikTok, il suffit d'appuyer sur un bouton.
Alors, pour peu qu'il y ait, c'est là où la question de la configuration du smartphone est extrêmement importante, parce que pour peu qu'il y ait une carte bancaire qui soit configurée...
Qui soit associée, en fait.
Qui soit associée, en une seconde, en un clic, on dépense 100 euros, qu'on peut ensuite donner à sa star TikTokeuse, TikToker préférée. Et c'est de l'argent qu'on donne juste... pour attirer leur attention, pour discuter avec eux, pour qu'ils fassent la promotion, parce que forcément c'est le culte aussi de la célébrité, et donc on va donner un peu d'argent pour qu'une star dise abonnez-vous à votre compte, comme ça on gagne 200-300 abonnés, et effectivement c'est extrêmement pernicieux, et donc là ça peut coûter cher au premier sens du terme.
Elsa est avec nous, Raphaël, au 32-16. Bonjour Elsa. Bonjour. Vous m'entendez, Elsa?
Oui, tout à fait.
Oui, j'entends. Bienvenue sur RMC, Elsa. Vous êtes dans la région toulousaine. Vous êtes une utilisatrice de TikTok, je crois?
Oui, tout à fait, oui.
Alors, racontez-nous ce que expliquait Raphaël concernant le fait de donner de l'argent comme ça à certains TikTokers. Comment ça se passe?
Alors, tout simplement, c'est pendant les lives. Donc, nous, on a constaté ça sur de nombreux lives de parfois très grands TikTokers. C'est tout simple en fait, on va juste appuyer sur un petit bouton qui est en bas de l'écran, qui est sous forme de cadeau, donc on a vraiment l'impression que ça peut être un smiley, et ça peut en effet prélever de l'argent directement sur votre compte de téléphone, qui est relié à votre compte bancaire. Et en fait, c'est quand même très facile parce que le TikToker va vous proposer en échange de ces cadeaux des pubs, une mise en avant dans le live, de la reconnaissance aussi parfois. Et on a même découvert qu'il y avait même une vente aux enchères de comptes à plus de 100 000 abonnés.
Vous vous rendez compte ? Et quand on dit influenceur, c'est qu'il influence vraiment les enfants. C'est ça le problème, Justine.
Oui, oui, bah, c'est les leaders d'opinion d'aujourd'hui, ce sont des youtubeurs, influenceurs, créateurs, maintenant, comme on dit sur TikTok, peu importe le nom qu'on leur donne, ils ont effectivement un pouvoir d'influence très fort. Ce sont devenus des modèles. Il y a quelques temps, c'était plus les sportifs ou autres. Maintenant, c'est vraiment ça qui a envie de ressembler tous les ados. Ce qui pose question, là, c'est que c'est une fonctionnalité que TikTok, effectivement, a créée il n'y a pas très, très longtemps, mais qu'elle n'a pas réussi à limiter aux majeurs, par exemple. Ça, c'est effectivement quelque chose qui devrait être totalement inaccessible aux mineurs, d'autant que, très juridiquement parlant, c'est évidemment pas leur argent qu'ils dépensent, c'est celui de leurs parents, parce que souvent c'est lié en fait au compte du store auquel on est abonné, donc c'est la carte bleue des parents. Et c'est vrai que ça choque d'ailleurs très fortement les parents eux-mêmes de se rendre compte que finalement leur ado, leur enfant peut dépenser leur argent sans qu'ils soient absolument au courant, sans même le biais d'une autorisation. Et puis ce qui est un peu effectivement, c'est ce que racontait Elsa, c'est que c'est très ludique en fait, c'est-à-dire que l'ado peut pas du tout avoir l'impression qu'il dépense de l'argent parce qu'il clique sur un cadeau, il clique sur des emojis, donc à aucun moment lui manifeste vraiment très fortement qu'il est en train de dépenser de l'argent, et tout ça pour se faire de la pub, parce qu'en fait c'est de la pub qu'il achète. Il devient un annonceur finalement qui achète un écran publicitaire sur la chaîne de l'influenceur.
Voilà,
ce qui est quand même un peu spécial en termes d'éducation.
Oui, et ce que nous expliquait Elsa, enfin je vais me tourner vers Elsa, mais elle a demandé aux jeunes de témoigner. Et ce qui est incroyable, c'est qu'elle a reçu des dizaines, voire enfin je crois 150 témoignages avec parfois des sommes très très importantes.
On peut dépenser combien comme ça, Elsa, sur TikTok ?
Nous, on a eu un témoignage qui allait jusqu'à 600 euros.
Et dans quelles circonstances, pardon, peut-on dépenser 600 euros sur TikTok ? C'était quoi ? Je crois que c'était un compte qui a été mis aux enchères, c'est ça ?
Alors oui, il y a plusieurs cas, en fait, si vous voulez. Là, c'était en effet un compte qui était mis aux enchères. Du coup, l'abonné en question essayait de le remporter. Mais après, il y a aussi parfois des sommes d'argent qui sont débitées en plusieurs fois et qui, au total, font une somme d'argent considérable, où les abonnés voulaient être mis en avant par une pub ou parfois voulaient juste de la reconnaissance de son idole.
Alors on se dit, mais pourquoi acheter un compte ? Tout simplement parce que c'est un compte populaire qui a beaucoup d'abonnés et donc il a de la valeur. C'est pour ça qu'il y a eu des enchères pour acheter ce compte, c'est ça, Elsa ?
Oui, il y a des enchères pour acheter ce compte parce qu'on a remarqué que chez les jeunes, c'est très important d'avoir un nombre d'abonnés conséquent. C'est une forme, je pense, de reconnaissance pour eux. Et vraiment, la course aux abonnés se fait de plus en plus forte.
On revient dans un instant. Elsa, vous pouvez rester encore avec nous quelques minutes, s'il vous plaît. Toujours, évidemment, nos invités, Justine Atlan qui est là. Et dans un instant, Raphaël, on aura Michael Stora qui est psychologue. Et on évoquera avec lui le fléau des réseaux sociaux chez les ados et les jeunes adultes. C'est RMC, c'est le week-end des experts, la vie numérique. On revient dans un instant, à tout de suite.
RMC jusqu'à 10h.
Votre vie numérique.
RMC jusqu'à 10h.
Votre vie numérique.
François Sorel.
Raphaël Grabli.
Le retour de la vie numérique sur RMC 9h46. Raphaël Grabli à mes côtés et on évoque les addictions et on va dire le fait qu'il faille absolument encadrer les usages des smartphones, surtout auprès des jeunes adultes et des ados. On en parle avec Justine Atlan, qui est directrice de l'association e-enfance. Merci d'être avec nous, Justine, ce matin. Raphaël, toujours, bien évidemment. Et dans un instant, on va s'intéresser aux addictions avec notre invité Michael Stora. Raphaël.
Oui, alors moi j'avais une remarque. C'est vrai que souvent, on se rend compte aussi que les parents, en fait, ne savent même pas ne connaissent même pas les applications utilisées par les enfants. Alors oui, il y a les plus connues, mais aujourd'hui, Justine Atlan, c'est quoi les applications les plus dangereuses ? On a parlé de TikTok très récemment, mais est-ce qu'il y a des applications encore plus dangereuses ou est-ce qu'aujourd'hui c'est Instagram, Snapchat, YouTube, TikTok ?
Alors, je dirais pas qu'il y a des applications forcément dangereuses, parce qu'on peut pas dire TikTok soit une application dangereuse. Elle l'est pas plus que ne l'a été Instagram ou Snapchat à une époque, et même Facebook au tout début. C'est dangereux dès lors que tout le monde y est, en fait, et donc ça concentre en fait les dangers qu'il y a peu sur Internet pour un ado ou un enfant. Là où sont les jeunes, vous allez avoir des prédateurs sexuels qui vont venir parce qu'ils sont pas idiots, ils viennent là où il y a massivement des jeunes. Vous allez avoir effectivement des tentatives d'escroquerie parce que que la naïveté des jeunes forcément est très tentante à exploiter. Vous allez avoir beaucoup de présence marketing, comme on l'a vu avec ce dont on vient de parler. Vous allez avoir effectivement des tentatives d'influence diverses et variées. Voilà, et c'est une autoroute hein, sur laquelle tout le monde vient, et donc forcément sur laquelle il y a statistiquement plus de risques. Ce qui est sûr, c'est que les ados ont une capacité à faire exister très vite une nouvelle application. Si on veut marcher dans le monde d'Internet et avoir une application qui fonctionne rapidement, on va faire quelque chose pour les jeunes au départ, parce qu'ils vont se précipiter dessus, être ultra utilisateurs, générer du clic, comme on dit. Et puis ensuite, les adultes vont venir. C'est ce qui s'est passé pour Facebook et maintenant pour toutes celles qui existent. La prochaine, je ne peux pas vous la décrire.
On verra bien.
Elle est certainement en chemin.
Ouais, elle est déjà en chemin. Elle arrive. Mickaël Stora est avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes psychologue, fondateur de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines. Alors, depuis tout à l'heure, on parle de l'addiction de ces smartphones. C'est une drogue, aujourd'hui, un smartphone. On est d'accord ?
Écoutez, le terme, ce qu'il y a, c'est qu'on galvaude un petit peu là, les termes. Si on veut être un petit peu sérieux, le terme de drogue est un peu excessif, comme le terme de danger, de mort, ou je ne sais quoi. Je crois que concrètement, nous avons tous un smartphone. Le smartphone peut, d'une certaine manière, nous piéger parce que on s'est rendu compte que finalement, il y a trop de notifications et que, alors qu'on avait normalement la main mise, mais dire que c'est une drogue, c'est un peu excessif parce que, dans la réalité, je dirais qu'on est censé plutôt pouvoir avoir la main dessus. Alors, chez certains, on va retrouver...
Il y en a qui perdent, il y en a qui perdent justement pied, hein, qui sont totalement addictifs et hypnotisés par leur smartphone.
C'est vrai. Écoutez, c'est étrange.
C'est pour ça que je me suis permis de dire drogue, parce que vrai que c'est peut-être un mot fort, mais
oui,
au moins, il ouvre un peu les yeux, quoi.
Oui, mais ce qu'il y a, c'est que justement, est-ce qu'il ouvre les yeux ou est-ce qu'il nous empêche de réfléchir concrètement à pourquoi on a un rapport et quel type d'application dans leur ergonomie, voyez, à quel point est-ce qu'elles peuvent finalement nous rendre dépendants ou provoquer pour certains, révéler peut-être d'ailleurs, des dysfonctionnements dans leur capacité à prendre de la distance. Puisqu'au fond, lorsque votre téléphone est éteint, on est renvoyé d'une certaine manière à ce que l'on est. Et peut-être que beaucoup d'êtres humains, d'autant plus dans une société qui va pas toujours très bien, ne veut pas voir. Donc il va s'illuminer sa face avec cet écran pour peut-être ne pas, d'une certaine manière, sombrer dans quelque chose qui l'inquiète. Donc ce qui est vrai, c'est que vous savez, l'addiction est une lutte antidépressive. Donc c'est vrai qu'on peut accuser le portable comme on peut accuser des réseaux sociaux, mais c'est peut-être aussi faire l'économie d'une réflexion plus poussée sur les raisons pour lesquelles il y a chez certains individus une pratique excessive.
Mais après, ça, la différence, c'est que le téléphone, ça a été pensé comme ça. Enfin, les réseaux sociaux, je pense par exemple à ce qu'on appelle le scroll. C'est-à-dire le fait de pouvoir parcourir son fil d'actualité sans aucune limite. Et puis, c'est lié aussi au modèle économique de ces réseaux sociaux qui nous diffusent de la publicité. Donc, leur but, c'est quand même qu'on y passe le plus de temps possible. Donc, le côté addictif, c'est pas un effet secondaire, c'est un effet voulu, non ?
Vous avez raison. C'est-à-dire qu'il y a en effet de la part... D'ailleurs, c'est pas forcément le portable en lui-même, puisque là vous parlez des réseaux sociaux,
c'est l'usage,
des gens qui travaillent. Donc le scrolling, le même, on parle de la couleur. Il y a beaucoup d'éléments en effet qui vont retenir l'attention et qui vont, puisque comme on le sait, l'économie, l'attention est devenue une nouvelle économie. Donc on veut que les gens restent le plus longtemps possible. Et donc voilà, maintenant, ce qui est vrai, c'est que le bonheur numérique, en effet, est un piège terrible. Et que, idéalement, le numérique se devrait d'être au service du réel. Et on se rend compte que ça devient petit à petit l'inverse. Et finalement, il y a, comme dans Instagram, par exemple, une sorte de déperdition de la pensée, un appauvrissement de la pensée. Et je vous entendais parler un petit peu tout à l'heure de TikTok. Alors, je ne connaissais pas cette histoire de mise aux enchères qui existe aussi sur un très grand réseau qui s'appelle Twitch. Donc, ce sont des dons que l'on fait. Et c'est vrai que j'ai tendance à penser, par exemple, TikTok est une application très créative. Et je trouve que tout de même, c'est quand même une des seules applications où on pousse à la créativité, alors que d'autres, on est dans une sorte de mise en abîme de narcissique, d'un soi en miroir, avec une sorte de guerre des clowns qu'on retrouve par exemple sur Instagram.
Il n'y a pas que du créatif hein, sur TikTok aussi, hein, Mickaël Stora. Il y a aussi voilà, des gens qui font pas grand-chose en vidéo et qui sont suivis par des millions de gens aussi.
Alors,
C'est un autre débat.
Oui, mais c'est vrai, mais TikTok a une forme d'exigence de créativité que n'a pas Instagram. Les influenceurs sur Instagram ont des poses Vous voyez, bon, et on sait que là, pour le coup, ça fait beaucoup plus de mal aux adolescents, eux d'ailleurs, malheureusement, puisqu'elles correspondent à des modèles qui sont inatteignables. Et cette sorte de tyrannie d'un idéal. Vous savez, sur TikTok, il y a des vidéos qui sont très tristes. Sur Instagram, la tristesse n'a pas de lieu d'exister. Et je crois que c'est important, quand on travaille avec les adolescents, d'accepter qu'il y ait des endroits où la tristesse ou les choses compliquées puissent être abordées.
Merci beaucoup, Michael Stora, psychologue donc, et fondateur de cet Observatoire des mondes numériques en sciences humaines. Et merci à vous, Justine, d'avoir été avec nous aussi.
Merci.
Pour vous rappelons que vous représentez e-enfance. Raphaël, on se retrouve la semaine prochaine, bien sûr.
Avec plaisir, François.
On sera là le samedi 9h-10h sur RMC pour la vie numérique. Et dans un instant, les paris. Jean-Christophe Drouet est là. Salut Jean-Christophe.
Bonjour François, bonjour à tous. Les paris RMC avec le grand retour de la Ligue 1, évidemment, ce week-end. Alors le Paris Saint-Germain-Marseille, on en parlera demain, évidemment. Mais il y a deux matchs aujourd'hui avec notamment Montpellier-Nice. Toute la Dream Team est là pour vous faire gagner un petit peu d'argent ce week-end.
Les paris RMC dans un instant. Moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dimanche pour De quoi je me mêle, les 3 heures d'auto avec Jean-Luc Moreau demain matin. Portez-vous bien. Bon week-end.